Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Je m'adresse à vous aujourd'hui qui croyez, comme moi, que la Bible est la parole inspirée de Dieu. À vous tous qui vous êtes posé cette question, vous y avez réfléchi donc, et vous en êtes arrivé à cette conclusion logique, qui est, très franchement, n'est pas très difficile à comprendre. Cette conclusion est d'ailleurs l'évidence même en matière de logique, particulièrement pour nous, Français et francophones, qui sommes particulièrement cartésiens. Et donc, sans même faire appel au pari de Pascal, vous savez ce fameux pari que le mathématicien français Blaise Pascal lançait il y a maintenant près de 4 siècles à ceux qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu, il leur disait « Pariez donc que Dieu existe et n'hésitez plus ». Car si vous gagnez, vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien. Un pari indiscutable, et qui bat à plate couture les raisonnements les plus échevelés sur le plan athée. Eh bien, vous qui n'hésitez plus, et qui en plus, vous qui avez reçu la foi de Jésus-Christ, tout simplement parce que déjà dans votre prière, vous avez désiré demander cette foi à Dieu qui est fidèle et qui donc vous a donné cette foi qui vous manquait, qui me manquait aussi. Et cette foi que Dieu nous donne par sa puissance, par la puissance de son Esprit Saint. C'est donc à vous que je m'adresse aujourd'hui, à vous qui avez acquis par la grâce de Dieu cette conviction que la Bible est bien la parole inspirée de Dieu. Exactement comme elle le confirme elle-même dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Toute écriture, dit-il, est inspirée et soufflée littéralement par Dieu. Et donc à vous qui commencez à entrevoir la lumière de la vérité de Dieu, vous qui comprenez que ce que Dieu nous enseigne dans son manuel de vie, la Bible, est évidemment de première importance. Alors, si pour vous tel est bien le cas, voici donc ma question aujourd'hui. Comment Dieu voit-il notre présentation personnelle? Dieu fait-il le lien entre notre présentation physique et notre comportement envers les autres? Ou bien pourrions-nous, devant Dieu, faire tout et n'importe quoi en matière de présentation personnelle? Autrement dit, notre présentation est-elle importante vis-à-vis de Dieu? Est-elle importante à ses yeux? Dieu a-t-il, en outre, des recommandations particulières, des instructions spécifiques qu'il veut nous communiquer au travers de sa parole sur la façon, par exemple, de prendre soin de notre coiffure? Et s'il est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons bien sûr toute liberté de choisir la tendance de notre apparence physique, est-il juste? Est-il bon, est-il droit pour autant de faire, je le disais à l'instant, tout et n'importe quoi, en matière de coiffure, de faire ce que nous voulons avec nos cheveux. Soit dit en passant, ce sont les cheveux que nous avons reçus de Dieu. C'est lui qui nous a créés et il a fait nos cheveux, il en connaît le nombre. Alors nous sommes assagis au fil des ans, depuis le temps de notre adolescence? Où sommes-nous restés des rebelles en puissance? Nous avons la liberté, et c'est une bonne chose. Certes, mais que faisons-nous de cette liberté? Quel en est le fruit? Et Dieu est-il satisfait de nos choix? Voyons ensemble dans sa parole ce que Dieu pense de l'art de la coiffure, en particulier pour l'homme d'une part et pour la femme d'autre part. Et voyons aussi ce que nous pouvons faire si nous désirons sincèrement et vraiment honorer Dieu, notre Créateur, avec les coiffures, avec les cheveux qu'il nous a donnés. Est-ce que la Bible définit un cadre particulier, un cadre essentiel, une norme générale que les chrétiens devraient suivre pour adopter une ligne de conduite qui ne soit pas déplaisante envers Dieu? Ou bien, comme le dit la vieille rengaine des années 60, en matière de coiffure, est-il tout bonnement interdit d'interdire ? Que dit la Bible sur ce sujet de notre présentation physique ? Notre désir en tant que chrétien est, bien entendu, de faire plaisir à Dieu, de lui plaire, de lui être agréable, d'honorer le corps humain qu'il nous a donné, bien entendu. C'est naturel, d'en prendre soin du mieux que nous pouvons. Nous comprenons que lorsque nous prenons soin de notre corps, de notre coiffure, nous honorons ce corps, nous honorons aussi ceux qui nous entourent, nos proches, notre conjoint, notre famille, ceux qui sont en contact étroit ou relativement étroit avec nous. Ils sont en effet en première ligne pour apprécier la façon dont nous prenons soin ou parfois dont nous ne prenons peut-être pas suffisamment soin de nous-mêmes. Cela peut arriver accidentellement. Nous le savons bien, nos collègues de travail ne manqueront pas de noter jour après jour la constance de notre présentation sur le plan de l'hygiène, de l'habillement, de la coiffure. La présentation est donc très importante. Et c'est d'ailleurs, remarquez-le bien, la première chose qu'un employeur remarquera. Nous le savons bien, chez un employé, chez une personne qui postule pour un poste dans une entreprise. Il y a donc déjà, même en dehors de la Bible, un standard qui existe, un standard équilibré, peut-on dire, de convenance dans la présentation, qui existe d'ailleurs dans chaque société humaine. Il peut varier, bien sûr, d'une culture à l'autre, d'une société à l'autre, de l'Orient jusqu'à l'Occident, notamment pour toutes les sociétés qui reconnaissent en particulier d'un bout à l'autre du globe terrestre, que tout comme nous honorons décemment nos proches, eh bien, nous devrions aussi honorer notre Créateur Dieu. Tout au long de l'histoire, les modes, les tendances, les coutumes ont considérablement changé et aussi façonné l'art et la manière des êtres humains de se coiffer, de s'habiller dans un but de confort personnel, bien sûr, mais aussi afin de savoir interagir les uns avec les autres. L'habillement, la présentation ont toujours véhiculé beaucoup de messages sociaux dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés humaines. Dans l'Égypte ancienne, on portait déjà une perruque pour se protéger de l'ardeur du soleil. En Europe, c'est à l'issue des guerres de religion que, sous la minorité du futur roi soleil, les cheveux naturels des hommes ne vont cesser de croître et d'être portés de plus en plus longs. Et finalement, c'est au moment où le jeune Louis XIV monte sur le trône de France que les perruques vont commencer à devenir exagérément longue, au point que Molière n'hésitera pas à moquer dans ses comédies les petits maîtres et les marquis, portant toujours des perruques exagérées, symbole de leur rôle à la fois comique et social, celui du galant, du dompteur des cœurs. Ainsi, par exemple, dans L'école des femmes, le bourgeois Arnolphe critique ces damoiseaux dont il énumère les trois instruments emblématique de séduction, grands cheveux, belles dents et propos fort doux. Mais dans la société civile des XVIIe et XVIIIe siècles en France, s'il était facile de reconnaître dans la rue qui un prêtre à sa tenue ecclésiastique, qui un militaire à son uniforme, mais aussi les nobles qui étaient les seuls à pouvoir porter aux côtés, bien sûr, une épée dont ils avaient le droit honorifique du port, la plus grande partie de la société française restait encore plongée dans la relative discrétion de l'anonymat. Et ce n'est qu'à l'arrivée de la Révolution française que, certes, certains de ces codes sociétaux particuliers volèrent littéralement en éclats. De ce fait, les femmes suivirent l'exemple des hommes qui obéissaient à la loi. La nouvelle République, la Convention en effet, exigeait depuis août 92 que les perruques disparaissent. Et donc, les dames également commencèrent à adopter une mode de cheveux courts. Vous savez, les tendances et les modes, d'une façon générale, ont la vie dure, mais elles peuvent aussi disparaître, elles peuvent aussi s'évanouir, pour réapparaître parfois. Certaines d'entre elles, effectivement, peuvent ressurgir. Mais qu'il s'agisse de vêtements ou de coiffures, et s'il est difficile de contrarier les modes quand elles prennent naissance, quand elles surgissent, ou d'essayer de négliger leur influence sur la vie sociale de nos contemporains, il est vrai aussi que donc ces modes apparaissent, naissent et disparaissent chacune en leur temps, en général une décennie plus tard, d'une façon moyenne. Je le disais un peu plus tôt, notre désir à nous chrétiens, en tout temps, c'est de plaire à Dieu, de lui être agréable, d'honorer donc, je le disais, le corps humain qu'il nous a donné, bien entendu, évidemment, et d'en prendre soin du mieux que nous le pouvons. Vous savez, ce ne devrait pas être une résolution fragile de début d'année, une mode passagère, car c'est un véritable mode de vie que nous choisissons, un mode de vie mature, responsable, et qui développe le caractère de Christ en chacun d'entre nous. La Bible montre que Dieu, dans ses rapports avec ses enfants, les êtres humains, n'a jamais forcé qui que ce soit à se convertir à son mode de vie humble et désireux d'aimer et de servir les autres. Cela dit, tout comme un bon père de famille, Dieu apprécie le fait que, je le disais, nous prenions soin de notre corps. L'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, écrit aux Éphésiens, dans cette épître, donc l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 29, il dit ceci, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Paul rappelle même aux Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit, dans son autre lettre aux Corinthiens. Et de fait, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Nous l'avons reçu de lui. Il nous a été confié afin que nous en prenions soin, et encore une fois, afin que nous honorions gracieusement ceux qui nous sont proches, tout d'abord, comme ceux qui nous entourent. Et donc, à plus forte raison, devons-nous honorer aussi notre Créateur Dieu à travers le soin apporté à notre corps. Paul leur dit aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Que vous ne vous appartenez point, c'est-à-dire pas du tout. Car vous avez été rachetés, il continue en disant cela, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est une instruction claire que Paul nous donne et elle n'est pas illogique. Elle est en soi parfaitement cohérente. En effet, si Dieu est bien notre Créateur et même s'il nous laisse libre et indépendant de choisir ce que nous voulons faire de nos vies, soyons honnêtes. Comprenons bien qu'en toute logique, notre corps et même notre esprit humain, dit-il, sont sa propriété créative et que nous en sommes en quelque sorte les intendants. Dieu possède sur nous un droit de propriété inhérent, incontestable. Que d'ailleurs cela nous plaise ou non. Mais vous savez, Dieu ne nous le rappelle pas toutes les fins de mois. Dieu reste humble, il reste bienveillant, et il nous donne à tous une vie, avec un choix. Nous pouvons choisir de l'honorer, ou bien nous pouvons choisir de n'en faire qu'à notre tête. Mais c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, en sachant que ce choix aura des conséquences éternelles. Dieu n'est donc pas indifférent à notre façon de prendre soin de notre corps en général et de notre coiffure en particulier. La Bible a beaucoup à dire sur le sujet de la bonne façon de soigner notre présentation en général. Aujourd'hui, comme hier, dans la société humaine, la coiffure, nous le savons bien, c'est tout un métier. Peut-être y a-t-il d'ailleurs des coiffeurs qui écoutent ce sermon. Et les professionnels de la coiffure possèdent ce talent de visagiste, je vais arriver à le dire, qui va leur permettre de conseiller leur clientèle sur le bon choix qu'ils devraient faire, le choix approprié de coiffure que cette clientèle voudrait essayer. Et puis, bien sûr, nous avons nos habitudes, nous avons nos préférences. Ce sont nos choix. Nous possédons ces choix. Nous nous les sommes appropriés naturellement et nous comprenons que Dieu nous laisse évidemment ce choix. Mais quelle est la bonne façon de prendre soin de notre coiffure selon Dieu? Existe-t-il un standard? Dieu a-t-il dans la Bible une instruction spécifique pour nous, pour nous diriger dans la bonne direction, dans le goût et dans le bon goût, et je dirais dans la décence vis-à-vis de notre coiffure, mais aussi vis-à-vis de notre présentation, et nous allons voir pourquoi, d'une façon générale, notre présentation générale. La réponse est oui. Dieu a une grande ligne directrice pour chacun de nous, ses enfants. Il est notre Père, et voici cette instruction spéciale qu'il donne à toute l'humanité, ses enfants, dès le premier chapitre de la Bible. Reportons-nous à Genèse, chapitre 1. Genèse, le premier livre de la Bible, et le premier chapitre. Genèse, chapitre 1, verset 27. Genèse, chapitre 1, verset 27, dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et dans le même verset, nous lisons, il créa l'homme et la femme. C'est extrêmement important. Il n'est pas ici question de coiffure, j'entends bien. Mais vous allez voir pourquoi ce verset est important par rapport à ce sujet. Il n'est pas ici question de coiffure. Mais nous ne pouvons pas enlever la seconde partie du verset. C'est elle qui est importante en particulier. Et c'est ce que dit le texte hébreu qui est, le texte hébreu a été reproduit depuis des millénaires, pratiquement sans la moindre faute, par les Lévites de la nation israélite qui ont reçu cette mission extraordinaire de transmettre les oracles de Dieu. Le texte original en hébreu dit à peu de choses près ceci. Ubara otam zahar venekeva. C'est-à-dire, mot pour mot, il les créa, mâle et femelle. Et il nous est dit que Dieu les a créés tous les deux à son image. Adam, d'ailleurs, l'a très bien compris, puisqu'il a trouvé Ève parfaitement à son goût, elle devait être magnifique, d'une part, et comme étant aussi le seul être vivant à la fois créé par Dieu et semblable à lui-même. Dieu a béni ce premier couple, verset 28, et Dieu a célébré ainsi le tout premier mariage de l'histoire humaine. Les choses sont ainsi depuis la fondation du monde. Il y a deux genres, masculin et féminin. Et même si certains voudrait en rajouter d'autres, ou autant que faire se peut, cela ne changera rien à l'affaire. Cela n'améliorera rien. La parole de Dieu aux humains est scellée. Son contenu légal est clos. Dieu a créé de façon parfaite, verset 31, deux genres humains. Il y en a donc deux dans la Bible, et deux seulement. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 36 genres, il y en a deux, masculin et féminin. Alors encore une fois, me direz-vous, mais quel rapport avec la coiffure? Eh bien, si Dieu a institué deux genres, il convient évidemment de distinguer par notre présentation celui auquel nous appartenons de toute évidence, et cela depuis notre enfance, notre naissance. En la matière, Dieu nous a-t-il donné des instructions particulières dans ce domaine ? Lisons quelques passages bibliques, si vous le voulez bien, afin de connaître le conseil de Dieu dans cette matière, le plus grand et le plus puissant conseil qui puisse exister au monde dans ce domaine, de toute évidence. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15, reportons-nous à ce passage, si vous le voulez bien, et je vous recommanderai d'ailleurs d'y laisser votre marque-page aujourd'hui, car nous y reviendrons plusieurs fois au cours de ce message. L'apôtre Paul écrit ici aux Corinthiens, il le fait sous l'inspiration divine. Dieu souffle ici littéralement ces mots dans l'esprit de Paul, appelé selon la volonté de Christ qui siège à la droite de Dieu. Paul écrit donc dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, ceci. Il dit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Notez bien ceci, la chevelure lui a été donnée comme voile. Est-il possible d'être plus clair ? Il ne s'agit pas ici d'un phénomène de mode passager, nous le comprenons bien, ou d'une tendance culturelle particulière. Il s'agit d'un principe intemporel, d'un principe général et même éternel. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et en disant cela, je cite encore une fois la propre parole de Dieu, contenue dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Genre masculin, cheveux courts. Genre féminin, cheveux longs. C'est le point de vue biblique. Et c'est le point de vue chrétien, très clairement. Tout comme les Romains du premier siècle, tout comme les Juifs du premier siècle de notre ère, les premiers chrétiens portaient les cheveux courts. Et le Christ ne portait pas de cheveux longs. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir en détail dans quelques instants sur l'origine païenne, disons-le carrément, de cette vieille croyance totalement erronée sur la longueur des cheveux de Christ. Qu'en est-il de la pratique moderne des cheveux longs chez les hommes ? Eh bien, elle remonte aux années 60. Rappelez-vous, lorsque les cheveux longs étaient portés dans le cadre de ce mouvement de contre-culture, rebelle, supporté par des musiciens populaires, des célébrités, mais aussi des industriels de la mode, qui voyaient évidemment tout leur intérêt. Or, la vraie question en la matière, et elle se pose à celui qui se dit chrétien, c'est de savoir s'il peut se permettre de compromettre les principes bibliques qu'il a reçus pour se conformer aux tendances temporelles de la société humaine. Quelle que soit l'époque, quel que soit le moment, quel que soit le mouvement. C'est cela ce qui compte. Et c'est la vraie question. Qu'est-ce qui est le plus important dans mon esprit ? Est-ce la loi de Dieu ? Est-ce la parole de Dieu ? Ou bien, sans même parler d'un caprice personnel, est-ce la tendance, quelle qu'elle soit dans la société ? Quel exemple le chrétien va-t-il donner ? Quel exemple va-t-il montrer aux autres ? La Bible insiste très fortement sur l'importance de l'exemple, d'ailleurs, et sur l'influence évidente que nous pouvons avoir sur notre prochain, sur ceux qui voient notre exemple, ne serait-ce que par notre tenue. Et dans sa première lettre à Timothée, Paul, au chapitre 4, au verset 12, 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul encourage ici Timothée à être un modèle pour ses fidèles, en parole, dit-il, mais aussi en conduite, en amour, en foi et en pureté. Bref, le chrétien, dans tout son être, se doit de respirer une conduite et une tenue irréprochables. et il s'efforce naturellement de le faire de tout son cœur. De même, l'apôtre Pierre écrit aux fidèles dans sa première lettre, au chapitre 5 et au verset 3, Pierre, apôtre, dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » En étant les modèles du troupeau. Là, la vie d'un chrétien devrait être une représentation vivante pour les autres de la voix de Dieu en action. En particulier pour les jeunes hommes, pour les jeunes femmes, bien sûr aussi. Mais, vous savez, tout homme chrétien qui s'efforce de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu devrait pratiquer l'enseignement biblique sur la longueur des cheveux. Et, je le disais, garder donc ses cheveux courts, tout en regardant les cheveux longs comme un attribut qui peut soit le faire ressembler à une femme, soit, si cela n'est pas ou n'est peut-être pas le cas, qui peut être, pardon, porteur d'un mauvais exemple pour les autres. Dieu ne nous a pas créés hommes et femmes pour que nous fassions n'importe quoi avec notre présentation. Nous sommes libres, bien sûr, je le disais en préambule, de donner à notre apparence, notre présentation, la tournure que nous choisissons. Mais cela sous-entend aussi une façon de penser équilibrée, une conscience pure, sans tache. Et c'est donc à nous de rechercher le style qui nous convient, le style qui plaît à Dieu. Je pense d'ailleurs, à ce sujet, que ce serait une bonne chose, c'est une bonne chose, une bonne initiative que de demander à Dieu lui-même, dans nos prières, avec foi. Père, montre-moi comment adopter une bonne présentation. De quels détails dois-je prendre soin ? De quels détails faut-il que je prenne soin? Montre-moi ces choses, s'il te plaît. Et Dieu va nous montrer. Nous avons vu Dieu intervenir dans nos vies au sujet de choses physiques, et donc Dieu va prendre soin. Vous savez, c'est une prière qui a tout son sens. Notre examen de conscience, lorsque nous venons vers Dieu et que nous le prions, est surtout de nature spirituelle. Mais nous avons tous des besoins physiques, ne serait-ce que sur le plan de la santé, sur le plan de toutes sortes de soucis qui peuvent intervenir dans la journée, de choses que nous devons régler. Cela fait partie des questions importantes. Notre présentation, comme je le disais, peut faire l'objet du conseil de Dieu. Donc demandons-lui conseil, c'est aussi simple que cela. Les cheveux longs, je le disais, sont un attribut réservé au genre féminin. Telle est la création divine. Alors parfois, la femme ne pourra pas porter de cheveux longs. Cela peut arriver en raison, par exemple, d'une condition médicale particulière, lorsque la perte des cheveux ne peut être évitée. Et dans ce cas, pour compenser cette condition difficile et pénible, il existe heureusement des moyens convenables et même parfois très élégants. Pour conclure cette section, je reviendrai un instant à la Bible elle-même. Au final, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fera la différence entre une tenue qui honore Dieu et celle qui ne va pas l'honorer? Qu'il s'agisse d'une coiffure, qu'il s'agisse de la présentation en général de la personne chez une femme ou chez un homme. Comment faire la différence entre le bon et le moins bon, ou même le mauvais? Dieu veut que sa création soit honorée décemment, tout simplement. Par voie de conséquence, nous devons nous assurer qu'en tant que chrétiens, il n'existe aucune confusion possible entre dans l'identification de notre genre humain, masculin ou féminin. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Après, le bon goût, la bienséance, ça c'est une affaire personnelle. C'est une question d'opinion. Chacun sera bien sûr veillé sur son amour-propre, bien naturel, afin de choisir la tenue et l'apparence qui conviennent. Dans Deutéronome chapitre 22, au verset 5, nous lisons « Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » En lisant ce verset, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une simple question de longueur de vêtements. Au Maroc, par exemple, les hommes portent souvent la gandora, qui est une longue robe descendant jusqu'aux pieds, une variante à manches courtes de la djellaba maghrébine ou du boubou africain. Mais personne ne se demandera s'il a devant lui un homme ou une femme. C'est un vêtement qui est porté indifféremment par les hommes ou par les femmes, mais malgré tout, les hommes sont reconnus. Et d'ailleurs, beaucoup de Marocains prennent aussi, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent prennent le soin de porter la barbe pour appuyer leur masculinité. En Écosse et dans les pays anglo-saxons, certains hommes, dans des grandes occasions, portent des kilts écossais. Ce ne sont pas pour autant des hommes qui seront identifiés comme étant des femmes, évidemment. Quel est le point de ce que je suis en train de dire? Le principe divin, c'est que dans la coutume, dans la culture de chaque pays, le costume, la façon de s'habiller, ne pourra pas permettre le moindre doute et il n'y aura aucune confusion possible. L'observateur saura à qui il a affaire, au premier coup d'œil. Ici, c'est un homme, là, c'est une femme. C'est cela qui compte. Ce n'est pas plus difficile que cela. Donc, comprenons bien l'intention divine qui est en filigrane dans ces versets. Ne nous contentons pas d'une simple lecture, d'une simple première impression à la lecture de la parole de Dieu. Prenons le temps d'examiner le sujet, de lire lentement le verset. Prenons plaisir à la lecture de la Bible. Vous savez, Dieu est un Père bon et aimant. Il veut que ses enfants avancent dans la vie en évitant toutes les embûches, tous les pièges, tous les déboires qui pourraient se dresser devant eux. Exactement comme nous-mêmes, nous voulons que nos enfants apprennent à se débrouiller dans la vie, à construire du caractère et à se préserver ainsi des pièges de l'existence. Nous connaissons tous la citation fameuse du Cid de Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Vous savez, les épreuves, les tests, les défis, toutes ces choses font partie de l'existence. Nous ne les aimons pas, la plupart du temps, mais prenons bien le temps de comprendre l'intention de Dieu, l'intention des versets bibliques que nous lisons. Regroupons toujours tous les versets qui parlent d'un même sujet, pour bien comprendre ce que Dieu, notre bon Père Céleste, veut que nous comprenions, afin qu'au fil du temps, nous puissions tous ensemble, construire ce précieux caractère en chacun d'entre nous, ce précieux caractère chrétien dont nous avons tous besoin, à l'image de Christ, notre frère aîné. Voyons maintenant un autre aspect de notre présentation personnelle sur lequel la Bible se prononce. Qu'en est-il des tatouages? Lesquels sont très populaires de nos jours, nous le savons, en particulier dans le monde occidental. Eh bien, la réponse est très claire, elle est relativement simple, telle qu'elle est exprimée dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 28, et j'utiliserai une traduction biblique de référence, un peu inhabituelle, celle du grand rabbin de France, Zadok Khan, publiée en 1899. Et notez-le bien, elle dit très précisément ceci, « Ne vous imprimez pas de tatouage, je suis l'Éternel. » Lévitique, chapitre 19, verset 28. Et c'est une traduction qui est déjà présente dans les mots qui sont utilisés dans la version 1890, à peu près à la même époque, du bibliste anglo-irlandais John Nelson Darby. Il n'y a donc aucun doute possible. Dieu proscrit effectivement les tatouages. Mais de quel genre de tatouage parlons-nous? Dans l'Ancien Testament, Dieu proscrit les usages de toutes les nations qui s'adonnaient à l'adoration des faux dieux. L'Égypte, la Syrie, Canaan et bien d'autres peuples qui entouraient la terre promise. Les tatouages et certaines autres coutumes, comme des incisions pratiquées sur la totalité du corps, Dieu les interdisait. Il s'agissait de marques, en effet, d'idolâtrie et par voie de conséquence, de rébellion contre Dieu. De nos jours, on peut voir des tatouages censés exhiber la foi chrétienne, des croyances chrétiennes. Dieu ne nous demande pas de faire de telles choses. Mais si nous portons déjà un tatouage, cela peut arriver. Dieu ne nous demande pas non plus de tout faire pour l'enlever. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sera impossible. Ce que Dieu demande avant toute chose, ce qui est important pour lui, c'est que nous changions notre état d'esprit. Voyez-vous, nous marchons maintenant comme Jésus-Christ a marché. Nous décidons de ne plus pratiquer ce que nous pratiquions avant, parce que nous comprenons maintenant que Dieu ne veut pas que nous agissions maintenant selon certaines pratiques. Quand Dieu nous dit dans sa parole « Ne vous imprimez pas de tatouage, je suis l'Éternel », il ne nous parle pas de tatouage d'enfant, de décalcomanie, un message ou même sans message. Il nous parle de tatouages imprimés sur notre peau qui pourraient nous causer des regrets au cours de notre vie, un moment où nous voulons changer et devenir des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont maintenant cette maturité d'esprit et qui ont décidé de marcher comme Jésus-Christ a marché. À ce sujet, et puisque nous parlons de l'exemple de Christ, certains ne manqueront pas de réagir à ce que je viens de dire et de dire « Mais voyons, le Christ n'avait-il pas de longs cheveux ?» Tout d'abord, notons bien une chose à ce sujet. Aucun des contemporains qui vivaient donc à la même époque que Christ, n'a fait de lui une représentation physique, une statue, un dessin, une représentation sur une poterie ou que sais-je. Tout comme Thomas, rappelez-vous, il savait que Christ était Dieu et qu'on ne devrait pas le représenter par des images ou par des sculptures. Les représentations les plus anciennes de Jésus que nous connaissons d'ailleurs sur le plan archéologique datent des années 240 à 250 de notre ère. Alors évidemment, ces artistes, les artistes de cette époque, n'avaient jamais vu Christ et ils n'avaient jamais vu d'ailleurs aucun de ses contemporains, aucun des témoins qui avaient marché avec littéralement, physiquement avec Jésus-Christ. Au fil des siècles, les artistes ont cherché à évoquer la sagesse et la puissance de Dieu telle qu'il se la représentait. Alors qu'ont-ils fait? Ils voulaient représenter le juge suprême, la puissance de Dieu, à leur façon. Qu'ont-ils fait? Eh bien, il y avait toute la mythologie grecque, la mythologie romaine pour les y aider, si j'ose dire, les statues, et c'est ainsi qu'ils se mirent à faire des copies, en quelque sorte, des statues du panthéon romain, du panthéon grec. Les dieux grecs et romains, Zeus, Jupiter, Neptune, ces dieux portaient tous de longs cheveux pour les distinguer des mortels, de longs cheveux bouclés ou non. Mais encore une fois, pour connaître la vérité sur la question, que devons-nous faire? Que faire? Nous devons étudier ce que dit la Bible, la parole de vérité. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens ceci dans le passage que nous avons vu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Comment le Christ aurait-il pu porter de longs cheveux? Et puis on imagine mal l'apôtre Paul envoyé de Christ, un homme qui s'est longuement entretenu avec Pierre, apôtre, lequel a vécu lui-même plusieurs années aux côtés du Messie en personne, On imagine mal Paul écrire ces mots si le Christ avait réellement porté de longs cheveux. Ce n'était pas la coutume des Juifs. Comment Christ aurait-il d'ailleurs pu aussi entrer peu de temps avant sa crucifixion? Rappelez-vous, le jour où il entre à Jérusalem, il est accueilli par la foule. Comment aurait-il pu être acclamé par la foule? Christ ne portait pas de longs cheveux. Qui plus est, il était aussi difficile de le distinguer des autres Juifs. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, rappelez-vous, dans Matthieu, chapitre 26, verset 48, c'est la fameuse scène où Judas Iscariote, le traître, vient embrasser Jésus-Christ. Pourquoi le fait-il? Le texte le dit. Pour que les soldats venus arrêter Jésus-Christ sachent bien qui ils devaient arrêter. Donc, une fois de plus, comme toujours, le récit biblique se tient. Il est parfaitement cohérent. Jésus-Christ ressemblait à l'un de ses disciples. Il était très difficile, même dans la pénombre, enfin dans la pénombre en particulier, de venir le reconnaître. Il n'avait pas, lui, de longs cheveux et les autres des cheveux courts. Alors bien sûr, certains diront, mais peut-être Jésus a-t-il prononcé dans sa jeunesse un vœu pour garder ses cheveux longs. Et la Bible contient un tel vœu. Il s'appelle le vœu de Naziréa. D'ailleurs, pourrait-il dire, Jésus n'était-il pas appelé lui-même le Nazaréen? Alors, cette affirmation repose tout d'abord sur une confusion entre deux mots. Nazaréen, un habitant de la ville de Nazareth en Galilée, la ville des parents de Jésus, et le mot Naziréen, qui désigne un adepte du vœu de Naziréa. Alors, qu'est-ce que le vœu de Naziréa? À l'origine, ce vœu était perpétuel, tel qu'il est exprimé dans la Bible, mais peu à peu, il devint temporaire. La codification juive, en particulier le Talmud, en fixait la durée à 30 jours. Mais rappelons tout d'abord que Christ demande aux chrétiens de s'efforcer de ne pas prononcer de vœux. Nous le lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37, dans notamment le fameux sermon sur la montagne. Ensuite, dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 6, on trouve le détail de la règle sur le Naziréat. Pour être Naziréen, il fallait premièrement, verset 4, s'abstenir des boissons enivrantes et du jus de raisin, du fruit de la vigne. Deuxièmement, il fallait, verset 5, laisser croître ses cheveux. Et finalement, troisième règle, il fallait aussi s'abstenir de tout contact avec un mort. La question qui nous intéresse est donc de savoir si Jésus avait prononcé un vœu de Naziréa, auquel cas, pendant ses 3 ans et demi de ministère terrestre, Christ aurait effectivement laissé ainsi pousser ses cheveux. Eh bien, si tel est le cas, si Christ avait prononcé un tel vœu, il n'aurait donc jamais bu de vin, enfin tout au moins dans la durée du vœu. Or justement, le soir même de sa dernière Pâque avec ses disciples, après avoir institué le symbole de son sang versé pour les péchés de l'humanité au moyen du vin de la Pâque, il leur dit ceci dans Matthieu chapitre 26 et verset 29, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Christ a donc bu de cette coupe de vin qu'il a partagée avec ses disciples, et il n'a pas prononcé de vœux de Naziréa, comme certains le supposent. En effet, s'il avait prononcé un tel vœu, qu'il aurait donc rompu ce soir-là, entre autres occurrences, eh bien, il aurait été dans l'obligation immédiate de se raser entièrement la tête, selon les instructions bibliques, et cela sans délai. Christ n'était donc pas Naziréen. Par contre, il était bien Nazaréen, un habitant de Nazareth, mais cela n'a rien à voir avec le fait de porter des cheveux longs. en vœu d'un tel vœu de Naziréat. Donc il avait donc bien les cheveux courts comme les autres juifs de son temps, dont il était, encore une fois, difficile de le distinguer. En vérité, c'est une image bien différente de toutes celles que nous avons coutume de voir dans les séries télévisées, dans les films, de tout temps sur le Christ. Alors qu'en fait, un peu d'études bibliques qui auraient pu être faites par les producteurs leur auraient permis de lever le doute sur cette vérité fondamentale au sujet de Jésus-Christ, de son apparence physique. L'apôtre Paul aborde lui-même dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11 et verset 5, la question de la distinction convenable. Revenons sur ce sujet, la distinction convenable et agréable à Dieu entre homme et femme, sur le plan de la longueur des cheveux. De tout temps, ce fameux passage biblique de l'apôtre Paul a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations erronées. En effet, bien que le contexte soit clairement la question de la longueur des cheveux, certains y voient autre chose. Et plusieurs commentaires, d'ailleurs, insistent sur la possibilité que Paul parlait en fait de porter un voile ou un chapeau pour les femmes. Est-ce le cas ? Or, si les mots qui sont employés ici font bien référence dans le grec au fait d'avoir la tête voilée, alors j'entends lors des prières ou à l'église, il s'agit de la présence ou de l'absence d'un voile, mais d'un voile chevelu, d'un voile fait de cheveux. En effet, dans les mots employés, il est question de tête rasée ou de cheveux coupés, selon le passage qui est mentionné. Remarquez particulièrement les versets 13, 14 et 15. Paul écrit « Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» De quel voile parle-t-il ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc très clairement, une femme qui, à l'église, en principe, va porter des cheveux longs, aura déjà ce voile. Le discours de Paul est très clair. Il parle de la longueur des cheveux, d'un voile chevelu, et non pas d'un voile en tissu ou d'un chapeau ou d'un autre type de couvre-chef. Finalement, nous en revenons encore à la gloire de la création de Dieu, dans laquelle une femme a été conçue par Dieu pour ressembler à une femme. Et quand ses cheveux peuvent pleinement rehausser sa beauté, alors son mari a le bonheur de se glorifier en Dieu de la féminité de son épouse. Et verset 7, par exemple, et c'est-à-dire de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu pour la beauté de sa création de la femme qui est devenue sa femme. Dieu n'a jamais destiné un homme à revêtir les caractéristiques d'une femme. Et cela inclut bien sûr les cheveux portés longs, ainsi que tout type d'accoutrement équivoque, qui laisserait donc un doute quant au genre de la personne rencontrée. Un autre sujet identique, qu'en est-il maintenant du port d'un chapeau ou d'un voile à l'église ou pendant une prière ? Cela n'est certainement pas interdit par les Écritures. Cependant, il est important de comprendre que de tels accessoires sont portés pour se conformer à une mode, à une culture ou par habitude, et non pas par droiture ou degré de droiture chrétienne. Si une dame décide de porter un voile, mettons, par motif de conscience, c'est sa décision personnelle. Mais elle ne devrait pas en faire une obligation ou même une prédication pour quelqu'un d'autre. Et vous savez, je le dis en toute gentillesse, je le dis avec beaucoup de respect, les dames qui en font un point de droiture pour elles-mêmes ou pour les autres doivent vraiment étudier à nouveau et à fond ce passage. Je le dis encore une fois, ce n'est pas mal de le faire, mais il est très important de bien clarifier ces versets dans notre esprit. Et nous pouvons demander conseil d'ailleurs à nos pasteurs. Ils ne manqueront pas de nous aider dans ce domaine. Distinguons bien ce que la Bible dit, ce que l'Écriture dit, de ce qu'elle ne dit pas. Dans un esprit de prière, dans un esprit d'ouverture d'esprit, de recherche de la vérité de Dieu. Comme d'habitude, avec l'apôtre Paul, les exemples qui sont donnés dans la rédaction de ces lettres en font parfois des écrits difficiles à comprendre ou à discerner, comme l'apôtre Pierre le confirme d'ailleurs, lui-même. C'est son style, c'est le style de Paul. Il écrit souvent comme il parle, semble-t-il, avec emphase, parfois même dans l'urgence de l'instant. Et les exemples et les illustrations s'enchaînent au fil de son écriture, au dépens par moment peut-être de la clarté immédiate. En conséquence, les lettres de Paul doivent toujours faire l'objet d'une relecture soignée et d'une étude approfondie. En prenant le temps de lire, par exemple, les passages, de les lire lentement. Même les commentaires bibliques sont loin d'être tous unanimes en la matière, et n'oublions pas que la parole de Dieu s'interprète d'elle-même, en regroupant chaque passage, en recoupant chaque passage, au moyen d'autres passages qui traitent du même sujet. Les fausses interprétations, les fausses contradictions disparaissent toujours quand on se donne la peine d'étudier chaque sujet à fond, dans un esprit de sincérité et de vérité. Jésus-Christ nous l'a dit, la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Jean, chapitre 17, verset 17. Et la vérité nous donne et nous donnera à tous la liberté, la vraie liberté, la liberté en Christ, la liberté de Dieu, pas la liberté des hommes qui, elle, ne tient pas ses promesses. Elle ne les a jamais tenues d'ailleurs. C'est Dieu qui nous a donné nos cheveux, et c'est une merveilleuse parure. Alors, en résumé, comment honorer Dieu avec notre coiffure et notre présentation générale? Même si au fil du temps, notre coiffure a tendance à se raréfier, ainsi va la vie des humains. Dans sa puissance, Dieu compte tous nos cheveux. Il en connaît le nombre. Nous devrions donc prendre soin de nos cheveux. Nous devrions prendre soin de cette coiffure que nous chérissons. Elle reflète bien le genre que Dieu nous a donné dès notre naissance et nous devons nous assurer qu'elle le fait bien. Soit le genre masculin, soit le genre féminin. Faisons-le donc avec goût, pour honorer Dieu et pour respecter son commandement qui est saint, juste et droit. Dans l'univers spirituel qui est le futur de l'humanité, nos cheveux seront éternels. Dieu lui-même possède des cheveux blancs comme la neige, nous dit la Bible. Ses cheveux sont un exemple pour nous. Ils révèlent sa sagesse, ils révèlent sa grandeur et sa dignité. Quant à nous, Jésus-Christ nous demande de ne nous inquiéter de rien. Autrement dit, ne vous faites pas de cheveux blancs. Ne vous faites pas de cheveux blancs avant l'heure, si j'ose dire. C'est Dieu, en effet, qui nous a donné nos cheveux d'aujourd'hui. Et il en connaît, je le disais, le nombre exact. Qu'ils soient élevés ou qu'ils soient plus modestes. Dieu est juste, il écoute nos prières. Alors, lisons et écoutons sa parole. Et agissons en conséquence. Honorons Dieu avec nos coiffures et prenons aussi soin de notre présentation générale comme il se doit. Je vous souhaite de passer un très agréable sabbat.